présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Je vais téléphoner à ma tante et elle sera très heureuse de me revoir. Elle téléphone à sa tante qui ne comprend rien. Elle ne sait même pas qui lui téléphone. Elle est sourde, un peu gaga, mais elle accepte qu'elle vienne. Marc prévient son mari et domestique. Il ne prévient pas François. Parce qu'elle se dit qu'il serait bien trop heureux de savoir qu'elle s'en va. Et Béatrice, encore moins, cette garce. Elle a prévu la date de son départ. Et à son mari. Je pars la nuit, comme ça je n'aurai pas la chaleur. Il lui dit, fais comme tu voudras. Le jour de son départ arrive. la journée elle a préparé avec les domestiques ses valises. Après avoir dîné à 19h, elle est prête à partir. Jules lui demande « Tu veux pas que je t'accompagne ?» Elle lui dit « Non, et puis tu as tes affaires. » « Tu as manqué. » « Toi aussi, je n'ai pas été très gentille ces derniers temps. Il faut me pardonner, je devais être fatigué. » Il fait « Mais tu es pardonné. » Elle dit au revoir au domestique, entre dans sa voiture et file. Les domestiques finissent de ranger la maison et s'en sont allés. Lui va dans son bureau lire un dossier pour le lendemain. Une heure plus tard, il est seul dans son bureau à lire. Il a entendu le bruit d'une voiture. Il va à la fenêtre et voit que c'est la voiture de sa femme. Il se demande pourquoi elle est revenue. Il sort du bureau. Descend aux étages pour aller voir. Arrivé au rez-de-chaussée, la porte s'ouvre. C'est elle. Il lui demande « Que t'arrive-t-il ?» Elle lui dit « Manque de chance. Ma voiture a quelque chose. Les freins ne vont pas. J'ai pensé c'est qu'il serait plus sage de revenir. Et demain matin, je repartirai. Avant, il faudra que je la montre au garagiste. » Il lui dit « Tu veux que j'aille voir ?» Il lui fait « Non, pas la peine. Les freins ne répondent presque plus. Je ne peux pas faire tous ces kilomètres sans presque pas de freins. » Il lui dit, « Tu as raison. Mais si tu veux, je peux appeler notre vieil ami le garagiste Lafleur pour qu'il vienne voir ça. » Il lui dit, « Il est déjà tard. Ce ne serait pas bien de faire venir. Pas très correct vis-à-vis de lui. Non, demain. Je mènerai la voiture dans son garage. » Il lui dit, « Tu as raison. » Il reste une seconde comme ça. Puis elle lui dit, « Un départ raté, c'est un petit côté gênant et stupide. On ne sait pas quoi faire. On est déjà parti et on est là. » Il fait, « Oui. En fait, mais ce n'est rien. » Elle lui fait, « Bon, eh bien, je vais téléphoner à ma tante de mon retard. » « Oui, tu as raison. » Lui aussi se sent gêné, ne sait pas pourquoi. Mais le retour de sa femme, ça le gêne. Il s'est fait une idée de son départ. Les adieux avaient été faits, et maintenant, là, les adieux vont être à refaire et tout. Elle lui dit, « Je monte au salon téléphoner. » « Oui. » Et elle monte au salon. Salon est au premier étage. Elle prend le téléphone, fait un numéro. Allô ? Elle parle très fort. C'est moi, tante. Tu te souviens de moi ? Marthe, je téléphone pour te dire que je ne peux venir que demain matin. J'ai un ennui de voiture. Non, je ne suis pas en train d'accoucher. Je viens demain, en fin d'après-midi. Bonne nuit, tante. Elle dit à son mari, toujours aussi sourde, et lui dit, elle n'a pas l'air de bien comprendre ce que tu lui as dit. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine que tu ailles la voir? Elle te reconnaîtra peut-être pas. Elle lui dit, elle a l'air comme ça, mais elle est très futée. Je lui dis, oh, tu veux boire quelque chose? Elle lui répond, oui, un dernier verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Du champagne. Du champagne? Oui, pour fêter mon retour. Il se dit que ça va peut-être être une nuit très excitante. Il va chercher dans le coin, bar, bouteille de champagne. Avec deux coupes, il revient vers elle. Elle s'est assise dans un fauteuil. Il la serre. Tiens, merci. Il se serre lui-même. Puis, s'assoit en face d'elle, dans un fauteuil. Ils boivent en silence. Il lui dit, tu n'es pas obligé de partir. On est très bien comme ça. Elle lui fait, si, ça me fera du bien. Comme tu voudras. Puis elle lui dit, j'aimerais aller me coucher. Il est déjà tard. Oui, bien sûr. Il se lève, sort de la pièce. Pour aller dans leur chambre. Ils ont tous les deux chambres, mais elles sont communicantes. Avant de rentrer dans sa chambre, il lui dit « Bonne nuit !» Elle l'embrasse sur le front et lui dit « Bonne nuit, je te rejoins !» Elle entre dans sa chambre. Il est tout heureux. Tout heureux. Il rentre dans sa chambre. Se déshabille. Et va dans la salle de bain. Pour prendre une douche. Puis il revient avec un pyjama en soie crème et une robe de chambre bordeaux. Il attend assis sur le rebord du lit. On frappe à la porte de la chambre. Entrez. Elle entre. Elle est nue. Il est surpris. D'habitude, elle est plus pudique. Mais se dit que c'est bon signe. S'approche du lit. Va tout doucement. Les mains dans le dos. Le visage comme un masque. Elle a le corps qui bat, Lui a le corps qui bat aussi. Près de lui, elle se penche et le fait tomber à la renverse sur le lit. Il ne bouge pas, ce beau corps sur lui. Elle se soulève. Une main se plaque sur la poitrine de son mari. Il voit l'autre main levée sur lui qui brandit un couteau, un grand couteau de pointu de cuisine, un manche noir. Il est bien maintenu par la main, les jambes plaquées sur son corps. Le couteau s'enfonce dans la poitrine. Le sang gicle. Le couteau recommence plusieurs fois. Le sang gicle, gicle. Ça s'est passé tellement vite qu'il n'a pas pu réagir. Et puis, la surprise, le premier coup a été mortel. D'un couteau très long et bien pointu. Il s'enfonce bien et se retire facilement. En giclant le sang, a giclé sur elle, son visage, sa poitrine. Elle s'arrête, essoufflée, se soulève. Jules baigne dans une mare de sang. Elle enlève ses gants. Jette le couteau et va à la salle de bain prendre une douche. Puis, nettoie bien la salle de bain. Et retourne à sa chambre. Elle prend des gants propres parce que les autres sont trop tachés de sang. Prend un sac en plastique. Elle retourne dans la chambre de son mari. Prend les gants, les met dans le sac en plastique, le couteau. Elle range un peu les choses. mais une lumière tamisée et retourne au salon. Prendre la bouteille de champagne et le verre. Il va y déposer sur la table basse de son mari, de la chambre de son mari. Elle a pris le verre où il a bu. Puis, elle va à la chaîne et met un CD. Elle a mis en répète la musique. Lumière en blanche, tout, dans le chevet. Et sort. Et sa porte entrebâillée. Va au bureau de son mari. Marche ordinateur et tape. Puis retourne à sa chambre pour s'habiller. Laisse la porte entrebâillée. S'assoit sur le rebord du lit qui est resté propre. Allume une cigarette et attend. Jambes repliées. Elle attend. Elle est calme. Très calme. Demi-heure plus tard, elle entend la sonnerie de l'interphone. le portail qui vient de s'ouvrir. La sonnerie de la porte d'entrée. La porte qui s'ouvre. Vous êtes là? Vous êtes là? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Des pas. Elle se dit que la musique va la guider jusqu'à la chambre. Vous êtes là? Frappe à la porte de la chambre. La porte s'est ouverte. Béatrice vient de s'évanouir en voyant la chose. Marthe, la cigarette aux lèvres, vient à elle, se penche, donne une tape au visage. Elle se réveille. Non ! Marthe lui dit. Il ne sert à rien de crier. Il est mort. Elle fait. Oh mon Dieu, venez. Je vais vous faire boire une coupe de champagne. Ça vous remettra. Elle la soulève, elle l'amène vers la table où se trouve la bouteille de champagne et de verre. Assoyez-vous, elle fait asseoir sur une chaise. Servez-vous. L'autre tremblante prend le verre qu'elle lui propose et elle se sert. En ce temps, elle va fermer la chaîne. Elle n'a plus besoin de musique maintenant. Elle boit le champagne. Béatrice. Elle ne sait plus où elle est. Tremblante, elle se laisse aller. Demande, mais que s'est-il passé?
Je ne sais pas. Je suis arrivée. Je l'ai trouvé comme ça.
Vous appelez la police?
Vous avez raison, mais buvez.
Elle lui sert encore un verre. Béatrice lui dit,
mais nous pouvons aller dans une autre pièce.
Marthe lui dit, à quoi bon?
Pourquoi faire? Et puis, c'est bien de veiller un mort.
Quel courage vous avez, mon Dieu!
Marthe lui dit, vous avez l'air toute tremblante, je crois c'est qu'il serait bien que vous rentriez chez vous et que vous vous couchiez.
Vous avez raison.
Vous allez aller à la salle de bain, vous donner un petit coup de peigne et puis vous passez un gant sur le visage.
Elle l'amène à la salle de bain.
Passez-vous un gant sur le visage.
Et elle la laisse. Pendant ce temps, Marthe prend le sac. Il y a le couteau. Le sac en plastique où il y a le couteau. Puis retourne à la salle de bain.
Vous allez mieux?
Oui.
Laissez le gant comme ça. Voilà, venez. vous avez votre voiture ?
Oui.
Je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous. Merci.
Elle sort de la chambre et de la maison.
Sorte de la propriété. Elles entrent dans la voiture.
Béatrice, étourdie, ne sachant plus où elle en est, la vision du crime, le sang, le champagne, Marthe, elle ne sait plus. Conduit comme une somnambule. Elle lui dit, je sais plus où j'en suis. Vous voulez pas conduire à ma place?
Marc lui dit, ça vous fera du bien.
Béatrice se dit, je me demande pourquoi on l'a tué de cette façon, d'une façon si sauvage.
Marc lui dit, peut-être pour le voler.
Vous n'avez pas appelé la police parce que vous l'aviez vu? J'étais si surprise.
On ne s'attend pas à ce genre de choses en entrant chez soi.
Béatrice lui dit, oui, bien sûr, c'est très insolite. Et maintenant,
eh bien, je vais appeler la police.
Vous auriez pu le faire peut-être avant?
Elle lui dit, la police n'aime pas être dérangée la nuit.
Elles arrivent devant la maison de Béatrice.
Elle arrêtait la voiture.
Elle lui dit, je vous remercie pour tout. Oh, mes condoléances. Merci. Je vais vous dire, vous aider à vous coucher. Vous êtes tout retourné.
Merci. Elle sort de voiture.
Dans la maison.
Elle est vide et lui dit, mon mari est en voyage.
Marc lui dit, pour une fois il a bien fait.
Les éclairs, elles vont dans la chambre de Béatrice qui se trouve à l'étage.
Marc regarde la pièce et lui dit, charmante pièce, meublée d'époque, et ces petits ours qui sont sur une table. Lequel vous préférez?
Elle lui montre un ours tout rabot gris.
Vous avez raison, il a l'air si doux, je vais vous déshabiller.
Et elle la déshabille.
Venez, je vais vous coucher.
Elle la couche. Merci, vous êtes très gentille pour moi.
Ce n'est rien.
Elle s'embrasse.
Bonne nuit.
Béatrice lui dit, je prendrai de vos nouvelles demain matin.
Oui.
Et elle sort de la chambre.
Descend les escaliers
au rez-de-chaussée. Elle ouvre le tiroir d'une commode et y dépose le couteau ensanglanté. Et sort de la maison.
Et elle se met à marcher pour rentrer chez elle. Elle marche
pendant 1h30. Elle se retrouve devant chez elle. Rentre chez elle en vitesse pour remettre le CD en marche. Et prendre sa voiture. Elle a laissé la maison et le portail ouvert. Lendemain matin, la bonne est surprise de trouver le portail et la maison ouverte. Il y a toujours cette musique en continu. Elle se dit qu'il doit être à sa chambre à se préparer. Va à la cuisine, commencer à préparer le petit déjeuner avec la cuisinière, qui est une grande femme, cheveux gris. La bonne s'assoit à table. Commence à préparer le petit déjeuner. Elle dit à la bonne.
Mais déjà sa musique le matin.
La bonne lui dit.
Il en profite. La vieille est partie. Quelle chipie celle-là. Il court toujours après un jeune qui pourrait être son fils. Pauvre monsieur.
La cuisinière lui dit.
Oui, quel gars.
Plus tard, le petit déjeuner est pris. La bonne est allée épousseter. La cuisinière prépare le repas. Toutes les deux attendent que le patron appelle.
Il y a toujours cette musique lancinante.
La bonne fait le rez-de-chaussée et le premier. À l'étage, elle fait les chambres.
Passant devant la chambre de son maître, c'est là d'où vient le bruit bizarre.
Elle voit qu'il y a de la lumière tamisée, puis ce bruit, et ça sent d'une drôle d'odeur. Elle se dit qu'il est peut-être malade. Frappe à la porte. Pas de réponse. Bien sûr, avec cette musique, elle frappe encore une fois.
Rien. Jette un coup d'œil. Et là, elle voit allongé à travers du lit, c'est sombre, peu éclairé, mais il y a les lampes de chevet, et se penche pour mieux voir. Oh! Je s'ouvre en courant.
passe-t-il? Il a voulu te violer?
La bonne est toute blanche, tremblante. Et que Gina va aller la prendre dans ses bras, la faire asseoir sur une chaise.
Tu veux boire quelque chose?
Elle ne répond pas.
Les salauds, ce sont tous des salauds,
la bonne lui dit.
Il est mort.
Mort?
Oui.
Je suis passé devant sa chambre. J'ai frappé pour entrer. Pas de réponse. J'ai jeté un coup d'œil parce que la porte n'était pas fermée. Et là, je l'ai vu mort à travers du lit. Marre de sang. Horrible.
La cuisinière lui demande.
Tu en es sûr?
Oui.
Il faut appeler la police. Mais avant, je vais voir.
Elle est montée, a vu, a fait un signe de croix et a appelé la police. Une heure plus tard, la police est arrivée, constaté le meurtre, pris des empreintes, photos, pris le corps pour la morgue. Interrogé le domestique à la cuisine. Le commissaire, qui est un homme grand, mince, dans les 40 ans, cheveux châtains, porte un costume marine, demande.
Et la femme?
La cuisinière lui dit, elle est partie voir sa tante à Florence.
Elle est partie quand?
Hier au soir, nous avons pu partir et monsieur est resté seul. Nous sommes partis.
La police poursuit son enquête. D'après le médecin légiste, est mort de coups de couteau. L'on fouille la maison, empreintes. On prend les empreintes des verres de champagne. On voit que ce sont ceux du mort et d'une autre personne. Avec l'ordinateur, on fait des recherches des empreintes. Parce que il y a un service, il y a toutes les empreintes. D'après les empreintes du verre de champagne, que ces empreintes sont à Madame Ferlac Béatrice. On interroge les domestiques pour savoir qui est cette personne. On lui dit que c'est la belle-sœur. Les policiers pensent que c'est un rendez-vous galant, qu'une fois que sa femme est partie, il a donné un rendez-vous galant, etc. Pendant ce temps, la police italienne prévient la femme de rentrer en France de suite pour retrouver mort son mari. Elle retourne en France et voit le commissaire qui la reçoit chez lui. Lui dit où en est l'enquête et lui demande « Vous connaissez ?»
Madame Ferlec?
Oui, bien sûr, c'est une de mes amies et belle-sœurs.
Avait-elle des relations intimes avec votre mari?
Elle lui répond. Non, pourquoi cette question?
Parce que nous avons des empreintes de cette personne dans la chambre de votre mari, sur un verre de champagne et dans la salle de bain aussi.
Vous en êtes sûr?
Tout à fait. Tout à fait.
La police va chez Béatrice, qui le reçoit au salon. Son mari est toujours absent.
Et dit au commissaire, j'allais justement venir vous voir. C'est au chevet de monsieur Lurel.
Et lui dit, oui madame,
elle lui fait, je sais des choses,
Je vous écoute.
Elle lui dit, j'ai reçu la nuit où il est mort un message sur ma messagerie internet urgence de lui, me disant de venir de suite parce que sa femme était très mal et qu'elle voulait me voir. J'étais surprise, mais étant l'amie du couple et la belle-sœur d'elle, je suis allée chez eux. Lorsque je suis arrivée, le portail était ouvert et la porte de la maison aussi. Je suis entrée, il y avait une musique lancinante, horrible. C'était sombre, j'ai appelé rien. Alors curieuse et troublée, je suis allée au-devant de cette musique. Elle provenait d'une pièce du deuxième étage. La porte était entrebâillée, sombre, juste un peu de lumière, et cette musique. J'ai frappé, pas de réponse. Encore une fois, rien. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas entendre à cause de cette musique lancinante. Alors j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu l'horreur. Et à côté du corps, sur le lit, les jambes croisées, fumant une cigarette, à côté de son mari, ensanglanté, là, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé et me donna du champagne, mené à la salle de bain, m'a dit qu'elle avait trouvé son mari comme ça et m'a raccompagné. Pendant plusieurs jours, je ne savais plus où j'en étais. J'attendais toujours cette musique horrible et ce tableau terrible, ce sang, ce corps rouge et elle calme, sûre d'elle. Je suis sûr que c'est elle qui a fait le coup. Le commissaire a écrit ce qu'elle a dit. Lui dit, vous avez rien d'autre à me dire?
Non.
Vos rapports avec le couple, amicaux? Aucune dispute?
Non.
Pourquoi, d'après vous, l'aurait-on assassiné?
Je ne sais pas.
Lui dit, nous continuons l'enquête. Venez signer votre déposition. Elle signe sur l'ordinateur.
Le commissaire enquête sur Marthe. Il veut savoir si elle est bien partie en Italie. Et quand elle est arrivée, il le lui demande. Elle lui répond qu'elle est arrivée dans la matinée chez sa tante. Il demande à la police italienne de poser des questions à la tante pour savoir à quelle heure elle est arrivée. Malheureusement, la tante est gagate. Marthe retrouve sa maison. Les scellés ont été enlevés. Le corps lui a été rendu. Elle prépare les funérailles très intimes, personne. Le corps sera incinéré, comme ça il ne restera plus rien. Le commissaire réfléchit et se dit qu'il n'y a qu'une suspecte et que c'est Béatrice. Donc il demande au procureur c'est de la mettre à garde à vue. L'autorisation de la mettre à garde à vue. Est arrêtée, amenée à la prison de Fresnes. Pendant ce temps, le mari revient. On lui raconte toute l'histoire. Il est effondré, mais il dit malgré lui, je savais qu'elle me cachait quelque chose. Et c'était donc ça, une liaison avec son beau-frère. La police fait des fouilles aussi dans la maison de Béatrice, dans ses affaires. On trouve dans un tiroir de la commode un couteau taché de sang. Laboratoire, c'est bien le couteau du crime. Le mari est effondré. Le commissaire dit que c'est bien elle.
avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.